Écran radiophonique vous présente un scénario original de Jean-Pierre Jumière, des garçons aux yeux verts. Mise en scène, production Jean-Pierre Jumière. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisé sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sur cette marque sont la propriété de l'auteur. tu vois, il y en a des lumières, et ça bouge, Guillaume lui dit. Ça va, je suis en vie, j'ai plus qu'à continuer cette merde. Et tu fais, ah, quoi? Et lui, Guillaume, lui dit, de toute façon, je n'ai rien. J'ai donné que j'avais à cette pute. Il se lève, voit trouble, et puis dit, j'ai pas fait ça pour l'argent. Et on lui dit, ça va, ça va. Il s'éloigne un petit peu banc. Maintenant, j'étais obligé de continuer cette merde. Les élèves se lèvent et lui disent, attends, je vais avec toi. Guillaume lui dit, fous-moi la paix, fais pas chier. Chez lui, se couche tout habillé, à séjourner, à lire, à boire, à fumer, à courir dans l'appartement quand il a des crampes. Sort que pour s'acheter de l'alcool. Le SS qui croise dans sa rue l'emmerde. Qu'est-ce qu'il a là, ce con, à me dire bonjour, s'il croit que cette merde, je vais lui donner quelque chose, quoi? Espèce de con, va, fait chier. Ma vie est nulle, nulle. C'est la nuit, la nuit. Pas d'avenir. Je suis chier, chier. Jamais je travaillerai. Jamais je ferai rien. Il téléphone à Arlette pour qu'elle lui apporte sa merde. Tu fais chier. Je veux plus te voir, un marre de ce mec qui fait rien et qui demande sa merde. Malgré tout, elle va lui apporter. Elle sonne, il ouvre la porte, tiens, tu rentres? Non. Et elle se sauve. Elle ne veut pas rentrer dans un coin dégueulasse et puis aimer un mec qui est complètement disjoncté par la drogue et le pinard. Elle en souffre, mais ne veut pas avoir des relations avec une loque à merde comme ça. lui souffre qu'elle se comporte comme ça. Il ne m'aime pas. Elle ne m'a jamais aimé, cette salope. Un jour, il va la voir. Elle le voit tellement sans défense qu'elle le reçoit. Entre. Mais elle lui dit, reste un moment, parce que j'ai affaire. Il entre, il est heureux. Elle le fait asseoir sur une chaise et elle, pendant ce temps, elle tape son mémoire. Elle ose à peine le regarder, tellement il ressemble à une loque. Lui se sent gêné pour elle. Elle a peine à la voir, parce qu'il a l'impression qu'il ne fait pas attention à elle, qu'elle ne fait pas attention à lui. Elle se lève et lui dit, « Bon, je vais aller à une soirée. On fait une fête chez des copains. » Il dit, « Ah, oui ?» Il croit qu'elle va lui dire de l'accompagner. Mais lui dit, « Tu peux rester ici pour dormir. » Si tu veux. Il est triste. Elle s'en va. Allez. Et elle est partie. Elle ne pouvait pas vraiment l'emmener vu l'état où il était. Lui est triste. Pleure, se dit. Elle ne veut pas que j'y aille parce qu'elle a honte de moi. Salope, salope. Il pleure. Boit. Fume. Et s'endort un peu. Il est réveillé par son retour. Elle lui dit, « T'es encore là ?» Il se lève furieux. « Ça va si je t'emmerde ?» Elle ne dit rien. Elle se dit qu'il a passé son temps à picoler. Il lui dit, « Je te quitte. » Et il l'a quitté. Ça lui fait mal, mal. Personne ne m'aime, personne ne m'aime. Passe ton temps à boire, fumer. Et la honte de ce qui est devenu, se dit, sa vie est foutue. Tu es une merde. Ne sors plus ton appartement. C'est une vraie décharge de bouteilles vides à terre qui traînent. Des barquettes de bouffe, vêtements sales, etc. Parce qu'il va chez ses parents, il essaye, c'est d'être normal. Bois moins. Prend une bonne douche et s'habille avec du propre, ben le propre qu'il a. Comme sa mère voit qu'il a des vêtements pas très propres, elle lui dit, tu me mèneras tes vêtements sales toutes les semaines. » Elle le sent mal dans sa peau, mais ne sait comment lui parler. C'est dur pour une mère de parler à son fils qui se ressemble si peu à son petit. C'est devenu un autre. Et puis, il y a le coq qui voit toutes les semaines. Elle, elle a ses problèmes. Vieillir pour une femme, c'est dur. Son père, qui le voit moins souvent, ça l'énerve de le voir ce qu'il est devenu. Avec ta gueule, ton ventre, tu ressembles à un monstre. Guillaume est furieux lorsqu'il lui dit ça. Il aimerait se le cogner, mais il n'en a pas la force. Il dit simplement, je suis pour rien. Je suis pas un sportif, moi. Ton père ou ses épaules. Il lui a dit ça, c'est pour le faire réagir. Il dit à sa femme, je me demande ce que fait le coq. Regarde, moi ce qu'il est devenu, une loque. Guillaume va voir le coq toutes les semaines, mais le coq ne se rend pas compte de l'état où il est, ou ne peut rien. Alors il lui dit, vous boirez moins lorsque vous aurez des patients. Comme si on pouvait s'arrêter de suite de boire. Et puis il n'y a pas que la boisson. Et de ça, le coq laisse passer au nom de la liberté. Donc Guillaume est à l'abandon. Personne ne l'aide pour sortir où il est. Tout ça, c'est la faute qu'on le laisse seul dans cet appartement sans rien, ni occupation. Alors il cafarde, c'est normal. Il aurait dû, c'est continuer à vivre chez ses parents en attendant d'avoir du travail. Aller à son bureau pour voir le courrier et le téléphone et rentrer le soir chez ses parents. Seul, dans un lieu agréable. Et où il aurait pu faire des choses, il n'aurait pas pu s'enfoncer comme il le fait. Et aussi, il aurait été entouré. Guillaume, après la soirée qu'il a passée chez Arlette, où elle l'a abandonné, se sent encore plus seul, furieux contre elle, se dit qu'elle ne l'aime pas, qu'elle ne l'a jamais aimé, elle a honte de lui, jamais personne ne pourra l'aimer. J'aurais toujours rejeté. Salope, salope. Et moi, je ne suis qu'une merde. Rien qu'une merde. Rien d'autre. Thank you. arrière, quelques mois en arrière, à Paris. Dans sa chambre, derrière les persiennes de la fenêtre, Marc Dantoil voit plaqué contre le rebord de la fenêtre Charles embrassant Christine. Cela l'excite. Il voit les mains de Charles dans le manteau de Christine toucher son corps et Christine se plaquer à lui. Marc sent naître en lui un double désir. Être à la place de Christine et à la place de Charles. Il n'ose pas bouger de peur de les effrayer. Charles a plaqué son cartable contre les persiennes et lorsqu'il se penche trop, il fait bouger le cartable. Après ce long baiser, ils se parlent. Marc ne comprend pas, il parle trop bas. Puis, Charles prend son cartable en cuir noir et il s'éloigne. Marc aussi s'éloigne de la fenêtre et se retourne. La pièce, sa chambre, est grande et vaste, mais elle paraît petite à cause du fouillis qu'il y a. Marc refuse à ce que quiconque aille dans sa chambre, même pas les domestiques. C'est une pièce carrée. De l'autre côté de la fenêtre se trouve, à droite, la porte. À gauche, contre le mur, l'armoire Louis XV. Ces portes ne peuvent plus fermer tellement elle est pleine. Le dessus de l'armoire a des cartons. Tout cela sont des vêtements vieux, usés. Marc ramasse les vieux vêtements que les gens du quartier entassent et déposent pour les pauvres. Ce n'est pas qu'il soit pauvre lui-même, mais il n'aime pas dépenser. Au milieu de la pièce se trouve un lit défait à une place. Sur le lit, autour du lit, des cartons remplis de vieux journaux. Dans un angle du mur, une petite table où se trouve tout ce qu'il faut pour prendre son petit déjeuner. Le bol et la cafetière. C'est sale et il y a plein de miettes. Marc va s'asseoir sur le rebord de son lit. Marc Dantoil a 50 ans. Il est grand, gros, a les cheveux grisonnants, le visage dur. Sa tenue est négligée et sale. Un vieux pull gris rapiécé et taché, un pantalon marron taché et des pantoufles de laine marron. Il entend la porte d'entrée s'ouvrir enfin. Il se lève pour entrebâiller la porte de la chambre. Après avoir vu qui était rentré, il referme la porte. Vient d'entrer dans l'hôtel des Dantoil un jeune homme habillé d'un costume gris et d'une chemise rose. À la main son cartable. Il est grand, mince, cheveux blonds foncés, yeux bleus, visage agréable. C'est Charles Dantoil, 18 ans. L'hôtel d'où il vient d'entrer est à son grand-père. C'est une grande bâtisse du 18e siècle dans le quartier du Marais à Paris. Les meubles sont d'époque. La vie, hall d'entrée avec les escaliers en marbre qui donnent aux chambres. Petit salon et la bibliothèque. Au rez-de-chaussée se trouvent les communs, salle à manger et grand salon. Puis aussi la chambre de l'oncle Marc que vous avez déjà vue. L'oncle Marc tient absolument son indépendance et c'est pour cela qu'il a choisi cette chambre pour être plus seul. Charles prend les escaliers. Dans le petit salon. Se trouve assis sur une chaise près de la fenêtre sa mère. Elle lit. Le voyant arriver vers elle, elle sourit. La reine de Donteuil a 40 ans. Elle est grande, mince, cheveux blonds, visage fin. Elle porte une robe bleu roi. Bonjour, mère. Charles se penche pour l'embrasser. Bonjour, Charles. Après avoir salué sa mère, Charles est allé dans sa chambre. Elle est vaste et décorée comme une cabine de bateau du début du siècle. Même les murs ont été boisés. Il y a un compas, des cartes, une boussole. Charles adore les bateaux et la mer. Une fois dans sa chambre, il met son cartable sur la table. Quitte sa veste et s'allonge sur le lit. Charles ne fait pas grand-chose. On peut même dire qu'il ne fait rien. Il doit préparer son bac et au lycée Henri IV. Mais cela ne l'intéresse pas. Il attend quoi? Il ne sait pas. Mais il sait qu'il va se passer quelque chose. Quelque chose qui bouleversera sa vie. Ce quelque chose ne viendra ni de Christine, ni du lycée, mais d'ailleurs. Toute la famille est réunie dans la salle à manger pour le dîner. Nous en profiterons pour présenter les autres membres de la famille. Celui qui préside, c'est le grand-père de Charles, François Xavier Danteuil, 65 ans. Grand, mince, cheveux gris, tête majestueuse et osseuse. Ne fait plus rien et reste la plupart du temps dans son bureau. À sa droite se trouve son fils, le père de Charles, Jules Danteuil, 45 ans, grand, mince, cheveux noirs avec une petite moustache. Son visage, je ne sais quoi de mon cœur. C'est lui qui fait vivre la famille. Il possède une banque et différentes affaires. Aime un peu trop les femmes. Ensuite, nous avons la sœur de Charles, Rosemary, 16 ans. Grande comme toute la famille, mince, brune, visage rieur et moqueur, ne pense qu'à s'amuser. Voilà, vous connaissez toute la famille. Comment? Ils se connaissent? C'est-à-dire très peu, comme toutes les familles? Car chacun ne connaît ses parents que lorsqu'ils sont réunis ensemble dans le cadre familial, mais en dehors, personne n'est capable de dire ce qu'ils font et comment est l'autre. Charles et ses cinq copines Christine qui habitent un petit deux pièces dans un vieil immeuble boulevard Saint-Michel. C'est un meublé, une pièce commune avec coin cuisine et douche et une chambre. Les meubles sont disparates 1950. La tapisserie est sombre, de grosses fleurs. L'appartement est aussi sombre. Christine n'aime pas faire le ménage, alors tout traîne. Sur les chaises, le lit, des vêtements. Sur la table, des livres et cahiers. Les disques et cassettes sont à même le plancher et l'évier est plein de vaisselle. Et ceci n'est pas grave, car Christine Lalande vit au jour le jour. Elle a été vendue chez Bata. Maintenant, elle est au chômage. Sa famille l'aide un peu et ses copains aussi. Quelquefois, lorsqu'elle a envie, elle fait au noir des ménages chez les mémés du coin. Charles, allongé, appuyé sur le lit, à côté des vêtements, la regarde danser sur un air de rock. Il l'aime bien. Elle a 20 ans, pas mal, ronde, mince, blonde. Elle porte une chemise d'homme blanche. Une fois qu'elle est finie de danser, elle se couche à côté de lui sur les vêtements. Sourit. Elle lui demande « Pourquoi tu souris ?»« Parce que je suis bien avec toi. »« Dans cette gargote ?»« Oui. »« Pourtant chez toi ?» Il sourit. « Oui, mais il y a mon père qui ne pense qu'à son fric ou aux filles. »« Ma mère qui pleure tout le temps. »« Et mon grand-père qui m'aime bien, mais il vit comme du temps des croisades. »« Alors tu vois, c'est dans le lugubre là-bas. »« Tu exagères. » « Oh, que non !» On sonne à la porte. « Laisse, je vais ouvrir. » Il se lève et va ouvrir sans regarder. C'est un jeune adolescent. « Bonjour, bonjour, le professeur. » Le jeune est troublé car Charles le regarde bizarrement. Le piano vous fait dire à mademoiselle Christine qu'elle peut venir vers 18h. Christine se met à crier.
D'accord, j'arrive.
Au revoir. Et le jeune se retourne pour descendre les escaliers. Il est grand, mince, cheveux noirs, visage très fin, élégant. Tout semble délicat chez lui. Il porte une gabardine beige, un foulard noir et un pantalon noir. Charles reste dans l'encadrement de la porte et le regarde descendre les escaliers. Une fois qu'il a descendu, il ferme la porte et retourne vers Christine. Il se sent trop drôle. Il ne sait pas ce qui se passe. Mais cette apparition lui a fait quelque chose. Pourquoi? Il ne sait pas. Il voit Christine. Elle lui dit, c'est le jeune. Lui qui vient prendre des cours de piano, le professeur qui habite la maison m'a demandé de donner un coup de balai le soir chez lui. S'empêcher de penser au jeune inconnu. Il ne sait pourquoi, mais quelque chose dans le regard de l'adolescent l'a frappé. Trois fois par semaine, voit sa copine. C'est surtout pour être près d'elle. La plupart du temps, ils ne font rien, ou presque rien. Ce n'est pas vraiment des sentiments entre eux, ni du physique, c'est du copinage. Ne le désirent pas vraiment. Et cela n'empêche pas de faire de temps en temps l'amour, surtout lorsque Charles en a envie. Ce qui leur rend
fougueux et violent même.
En après-midi, en allant chez elle, il rencontre le jeune. Sort de l'allée juste avant qu'il n'y rentre. Charles lui dit « Bonjour, bonjour. » Au lieu d'entrer dans l'allée, il suit le jeune. « Je m'appelle Charles, et toi, Gilles, tu habites loin ?»« Non, deux rues plus loin. » Et il continue à marcher. Charles ne sait comment continuer la conversation. « Alors, tu apprends le piano ?»«
Oui, c'est surtout pour faire plaisir à ma grand-mère. » »«
Tu vis avec ta grand-mère ?»«
Oui, mes parents sont morts dans un accident de voiture. »
Tu aimes la musique classique alors ?
Non, pas vraiment, j'aime plutôt le rock.
Quel est ton groupe préféré ?
Ariane Grande, il y avait.
C'est vrai ?
Ils sont bons, Ariane. Ils ont fait une de ces morceaux dans leur dernière compilation.
Tu sais, ils vont jouer la semaine prochaine au Club 7.
Oui, si tu veux, on y va ensemble.
Là, je ne sais pas. Faut que je demande à grand-mère du côté financier, on est un peu juste.
Si tu veux, je peux...
J'aime mieux pas. Je ne saurais pas comment je pourrais te rembourser.
Qui te parle de me rembourser?
Pourquoi m'offrirais-tu une place au concert?
Je ne te connais pas.
Comme ça, je te trouve sympathique. Et puis, qu'est-ce qu'une place de concert?
Dis oui.
Allez.
D'accord.
On se donne rendez-vous au club ?
Oui, bon.
Oui, d'accord, c'est bon.
Il marche 5 minutes et Gilles s'arrête devant l'allée d'un immeuble modeste.
Voilà, je suis arrivé,
tend la main à Charles et entre dans l'allée.
42 km à 5
Charles, sur le chemin qui le ramène vers sa copine, se sent heureux.
Heureux de quoi ?
De presque rien. Comme c'est drôle la vie.
Aller au concert d'Ariane Grande. La salle était chauffée, il y avait beaucoup de monde. Et c'était bien, malgré que la sono a foiré un peu.
Après le concert, Charles a raccompagné Gilles jusqu'à chez lui. Il était heureux et on rit comme des gosses. En
mettant en boîte une fille qui avait dragué avant le concert, Jill. Charles avait l'impression de connaître Jill depuis longtemps. Cette nuit-là, il n'a pas pu dormir. Il avait constamment devant lui le visage de Gilles. La grand-mère de Gilles habite un appartement au deuxième étage d'un vieil immeuble, un trois pièces sombre. Couloir donnant à droite à deux chambres et à gauche à la salle à manger et à la cuisine. Les pièces sont pleines de meubles cirés 1930 et de plantes vertes. La grand-mère de Gilles a 60 ans. C'est une petite femme maigre qui a déjà les cheveux blancs. Depuis la mort de son mari, elle s'habille en noir et vit dans ses souvenirs. Elle aime bien Gilles, mais elle se sent un peu lasse pour vraiment s'occuper de lui. Lorsqu'elle s'en occupe, elle le fait comme une vieille personne. Gilles mène une vie assez solitaire. Il n'a pas vraiment d'amis, alors il passe son temps à lire ou à écouter du rock. Ses études ne se passent pas trop bien, il a des difficultés à suivre. Trop rêveur. Malgré ses mauvaises notes, et grâce à ses lectures, il est en avance ses camarades, mais personne ne le sait. Demain du concert, il se retrouve vers chez Christine. Charles a dit à Gilles de venir le chercher chez lui à 15h pour aller faire les disquaires. Je te rendrai devant ton immeuble. Mais non, tu peux rentrer. Je ne sais pas, ça gêne. Ça va peut-être gêner. Si, c'est moi qui te le dis, tu peux rentrer. Gilles, tout intimidé, sonne à l'hôtel des Dantoy. Un domestique lui ouvre. Je veux voir Monsieur Charles.
Bien, entrez.
Le domestique le fait entrer. Puis, il le laisse dans le hall. Un autre domestique descend les escaliers. Voit Gilles, s'approche de lui.
Monsieur.
J'ai rendez-vous.
Oh oui. Veuillez me suivre.
Et il fait monter Gilles. Frappe à une porte. L'ouvre, fait rentrer Gilles et ferme la porte. C'est une vaste pièce, bureau, avec un coin salon. Le bureau est au centre de la pièce, derrière une baie vitrée. Au mur de droite se trouve une vaste bibliothèque.
À gauche, salon avec canapé, fauteuil, table basse, vitrine, où se trouvent des statuettes et au mur des tableaux. Gilles entend en sourdine jouer un air de valse. Gilles regarde tout ça sans bouger.
Vous désirez?
Gilles se retourne et voit devant la bibliothèque François Xavier d'Anteuil, debout, une canne à la main. Charles m'a demandé de venir le chercher chez lui. J'ai rendez-vous avec lui. Et un domestique m'a mené jusqu'ici. Le grand-père s'approche.
Connaissez mon petit-fils?
3 semaines, monsieur.
Moi, je suis le grand-père de Charles. Et vous?
Gilles Boin.
Enchanté. J'espère que vous êtes meilleur élève que mon petit-fils.
Gilles rougit. Je suis pas très bon élève. Le grand-père haut ses épaules.
Ce n'est pas de votre faute. C'est l'enseignement qui ne vaut plus rien. Depuis mai 68, on a tout chambardé, tout chamboulé. On passe plus de temps dans les écoles à s'occuper de choses qui n'ont rien à voir avec la scolarité. Et sous prétexte d'égalité, on a fait entrer la barbarie dans les lycées. Il est impossible d'enseigner correctement dans de telles conditions. Je vous ennuie, sans nul doute. Voyez-vous, mon jeune ami, j'ai décidé de vivre replié en dehors de ce monde de décadence. Vous voyez ici, c'est mon univers, mes livres, ma musique, mes œuvres d'art, tout ce que les gens ne savent plus apprécier. Écoutez cette musique, n'est-elle pas belle? Que plus personne ne l'écoute. Pourtant, c'est mieux que du rap. J'aimais le rap.
Gilles sourit. Non, je n'aime pas très bien.
Vous me plaisez. Le rap, c'est de la sous-culture. C'est du primaire. Toujours la même musique, saccadée. On ne chante pas, on crie directement au public en le tutoyant. Soi-disant que ça dit le mal de vivre des jeunes des banlieues. Mais c'est une affaire de gros sous. Ce sont les éditeurs de disques qui ont inventé cela. Ils se sont dit qu'il y a beaucoup de jeunes dans les banlieues, les UP. On va créer un produit pour eux. Ça rapportera gros. Le mal de jeunes. Le rock le disait avant, et d'une façon moins primaire. Lui, c'était plus culturel, comme il le disait. Savez-vous que le rap est dangereux? Si l'on donne aux banlieues sup au langage une culture à part, elles seront toujours percées et reconnues comme des villes à part.
vous avons présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, Le garçon aux yeux verts. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.